OK, on continue notre leçon sur Néhémie. Ce soir, on regarde la deuxième partie. Ce qu'on va examiner d'une façon particulière ce soir, c'est les caractéristiques du leadership de la personne de Néhémie et le contenu du livre. Parce que je me souviens, lorsque j'étais à l'école biblique, j'avais fait un travail sur la personne de Néhémie. Alors, pour moi, c'est une personne que je trouve d'un grand zèle. Néhémie est une personne qui était zélée. Alors, on va regarder les caractéristiques de son leadership. Bien sûr, l'étude approfondie du caractère de Néhémie va nous apporter des riches enseignements et nous le fera apprécier et aussi imiter. Néhémie était un homme de foi, un homme de prière, un homme d'oubli de soi, un homme de courage et un homme d'action. Il nous enseigne de multiples leçons. La première, c'est qu'il n'y a pas de victoire sans travail et sans combat. Quand on étudie l'ensemble du livre, on se rend compte qu'il a combattu beaucoup parce qu'il a été attaqué par les ennemis de l'extérieur et il y avait même des gens à l'intérieur du peuple qui profitaient du peuple en faisant de l'usure, des prêts d'argent, toutes sortes d'affaires de même. Alors, il y a eu à lutter à la fois avec les ennemis extérieurs et certains éléments du peuple d'Israël intérieur qui devenaient en quelque sorte les ennemis du peuple. Autre leçon, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité sans opposition. Quand on regarde l'ensemble de sa vie, l'ensemble de son œuvre, ce qu'il a fait, bien sûr, c'était une opportunité que le roi lui avait donnée de reconstruire la muraille, de reconstruire Jérusalem. Mais on sait, quand on lit l'histoire de façon attentive, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup d'opposition et qu'il y a eu à combattre. Ça, c'est intéressant quand on étudie le livre, de voir comment les ennemis d'Israël ou de Néhémie agissaient, quels étaient les outils qu'ils utilisaient pour le décourager, et lui, de quelle façon il répondait. Il y a beaucoup de leçons spirituelles pour nous aujourd'hui, parce que les ennemis de Dieu, les tactiques qu'ils utilisaient à l'époque, ils continuent de les utiliser de nos jours. C'est pour ça que c'est un livre que, si on l'étudie attentivement, on voit que sa manière de réagir à l'opposition, ça nous donne des leçons comment réagir à l'opposition, nous aussi, aujourd'hui. La troisième caractéristique, leçon que nous enseigne Néhémie, c'est qu'il n'y a pas de porte ouverte sans que des adversaires ne tentent d'en obstruer l'entrée. Partout où il y a des saints, disant, levons-nous et bâtissons, il y a immanquablement des ennemis disant, levons-nous et opposons. Si on regarde l'ensemble de ce qui se passe sur la terre en termes de volonté de vouloir faire avancer le royaume de Dieu, on sait que l'ennemi cherche, par tous les moyens, à stopper ou du moins à ralentir l'œuvre du Seigneur. Et la quatrième leçon, c'est que la prière et la parole de Dieu sont essentielles pour la victoire. Si on prenait l'ensemble du livre, on regarderait le rôle de la prière dans la vie de Néhémie et le rôle de la parole de Dieu dans sa façon de voir les choses, dans sa façon d'agir, on verrait que c'est très important. Alors, la première chose qu'on va apprendre sur lui, c'est qu'il était les chansons du roi et qu'il s'est préparé. Néhémie n'est pas devenu un leader du jour au lendemain. Il fut préparé par le Seigneur. Et il s'est aussi préparé lui-même. Dieu est souverain sur nos circonstances et sur les esprits des hommes et des saints en particulier. Dieu plaça alors Néhémie au bon endroit, au bon moment, pour accomplir le bon travail. C'est la part de Dieu. Néhémie joua un rôle dans sa préparation. Comment Néhémie fut-il élevé à une position sociale si élevée et si influente? Nous croyons que c'est par sa stricte honnêteté, sa vigueur dans l'accomplissement des tâches confiées, son intégrité et sa piété exemplaire. Alors, si on se place à la place d'un roi de l'époque, c'était la personne qui goûtait le vin, qui mangeait de la nourriture avant que le roi prenne quoi que ce soit. Autrement dit, un roi qui confie un poste comme ça à quelqu'un, surtout à cette époque-là où ce que le moyen pour se débarrasser des souverains, c'était l'empoisonnement, fallait que tu sois un homme en qui tu as une confiance absolue. Alors, il avait déjà démontré par sa vie, par son comportement, que le roi pouvait lui faire confiance. Ça nous donne des leçons aussi. Pourquoi il est élevé? Parce que quelqu'un, plus tu vas appliquer des leçons morale dans ta vie, plus tu vas avoir, tu vas être apprécié par les, même les leaders. Alors, les chansons du roi étaient une position très honorable, de grande influence et de grande responsabilité. C'est dans cette position qu'il nous manifeste qu'il était, on va regarder ses qualités, j'en vois au moins six, là, conscient. Il avait une reconnaissance claire des besoins. Il fut informé par son frère Anani de l'état pitoyable de Jérusalem et de son peuple. Même dans sa position prestigieuse, il avait gardé des contacts pour se tenir au courant de ce qui se passait à Jérusalem. Donc, c'était un homme conscient. Il ne faisait pas juste profiter de sa position de leadership et de privilège. Il était conscient des problèmes de son peuple qui était ailleurs. Et il était aussi concerné. On le voit dans le verset 4 du chapitre 1. Il s'identifie clairement comme pouvant faire quelque chose pour la satisfaction des besoins du peuple d'Israël. Dans le verset 4, il dit « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » Quelle belle leçon! Il voit qu'il y a des problèmes dans le peuple de Dieu. C'est quoi sa réaction? Il s'humilie, il pleure, il jeûne, puis il est plusieurs jours dans la désolation et il prie. Est-ce que ça ne nous donne pas la leçon qu'aujourd'hui, si nous, on voit des problèmes dans le peuple de Dieu en général, qu'on se devrait d'agir comme lui? Bien sûr. C'est ça qui arrive des fois quand on lit des livres. On lit un livre en superficie et on ne tient pas compte de la leçon morale que le Seigneur veut nous enseigner pour appliquer dans nos vies de tous les jours, aujourd'hui. Même si ça fait très longtemps de cette histoire-là. Troisième chose qu'il manifeste, il avait de la confiance en Dieu. Il avait une connaissance claire de ce qui pouvait l'aider à rencontrer les besoins. Quand on lit à partir du verset 5, aller jusqu'au verset 10, du chapitre 1, il dit « Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment, et qui observe tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon père, nous avons péché. » Il y a une chose importante ici, se rendre compte que les problèmes qu'ils avaient, c'est eux-mêmes qui en étaient la cause. Le peuple avait péché, lui avait péché, et il récoltait les fruits de leur comportement. Verset 7, « Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le pays que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Juste à partir de ces versets-là, il y aurait une multitude de principes à retirer et à regarder comment on se doit d'agir quand on constate des problèmes dans l'Église du Seigneur. Lui, c'était dans le peuple d'Israël, nous, c'est dans l'Église du Seigneur. Quatrième chose qu'il caractérisait, qu'il était un homme consacré. Il exprimait sa claire disponibilité pour être utilisé personnellement. Dans le verset 11, il dit « Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. » J'étais alors aux chansons du roi. Autrement dit, il prie Dieu parce qu'il s'apprête à demander quelque chose au roi, mais avant de demander quelque chose au roi, il n'oublie pas qu'il faut demander quelque chose à Dieu. Dispose son cœur. C'est un homme. Dieu peut disposer le cœur des rois. Et quatrième caractéristique, nous cinquième, il était courageux. Il s'implique clairement pour accomplir le travail. Sa position des chansons lui donnait une opportunité splendide pour présenter une requête au roi. Cependant, c'était très risqué qu'apparaître triste devant la présence du roi, et ça pouvait même lui coûter la vie, parce que cela traduisait une insatisfaction envers les bontés du roi. Dans ce temps-là, te présenter devant le roi alors que tu étais chanson, puis tu avais l'air marabout, là, c'était dangereux pour ta vie. Et lui, il se présente devant le roi, puis il n'a pas peur de lui dire qu'il est triste à cause de ce qui se passe à Jérusalem. C'est un homme courageux. Il risquait sa propre vie pour obtenir la permission du roi d'aller régler les problèmes qu'il y avait à Jérusalem. Et aussi, il était conscient des coups. Dans sa tête, il a fait une évaluation claire des coups impliqués. Un leader fort doit toujours avoir une évaluation claire de ce que l'ouvrage entrepris va coûter en effort, en oubli de soi personnellement, en ressources humaines, en ressources matérielles, en ressources financières. Il savait déjà qu'il rencontrerait de l'opposition. Et tu repars à reconstruire une ville, tu es tout seul. Quand on lit le livre, il se promenait dans Jérusalem, tout était en ruine. Alors, ça prend un homme qui est vraiment courageux. Néhémie, chapitre 2, verset 9, verset 11 à 15 et verset 19. Alors, il dit, « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Verset 11, « J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée, et je me dirigeai contre la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passai près de la porte de la source et de l'étang du roi, et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. Je montai de nuit par le torrent, et je considérai encore la muraille. Puis je rentrai par la porte de la vallée, et je fus ainsi de retour. Sanballat, le Horonite, Tobija, le serviteur Ammonite, et Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, « Que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? » Alors on voit que déjà les ennemis de Dieu se mettaient en place pour s'opposer à lui. Il n'y avait même pas encore commencé. Il commençait déjà à s'opposer. Alors on a un autre aspect de son caractère, c'est Néhémie le bâtisseur. Alors, à partir du chapitre 3, aller jusqu'au verset 53 du chapitre 7, il construit. Alors, il a commencé par planifier le travail. Le chapitre 3 de Néhémie nous donne une description très détaillée de Jérusalem à cette époque. Il travailla en commençant par la porte des brebis et de façon circulaire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Néhémie décrit les murailles, les tours et les portes de Jérusalem. Ce chapitre nous montre les grands talents organisationnels de Néhémie en organisant le travail en fonction des familles et des métiers. Si quelqu'un veut étudier le chapitre 3, là, c'est d'une grande intelligence, la manière, parce que quand il parlait des familles, la manière qu'ils ont organisé et le sens dans lequel ils travaillaient, il y avait beaucoup d'intelligence là-dedans. Donc, c'était un homme qui savait organiser le peuple. Néhémie, non seulement il a planifié le travail, mais il l'a aussi performé, il l'a accompli. Chaque fois qu'un ouvrier du Seigneur travaille à bâtir une œuvre, l'opposition se manifeste automatiquement et immanquablement. Et l'opposition viendra de deux directions, de l'extérieur et de l'intérieur. Néhémie a su comment vaincre les deux formes avec succès. Il y aurait beaucoup à apprendre sur ce côté-là. Il était attaqué de l'extérieur, il est attaqué de l'intérieur. Comment il a répondu? C'est une beauté étudier ça. Quand on étudie ça, là, puis qu'on met ça en rapport avec notre situation de nos jours, il y a une multitude de leçons là-dedans. La Bible a été écrite avec infiniment d'intelligence et il nous donne des leçons. Donc, il y avait de l'opposition extérieure. On va regarder c'est à quoi les outils que les ennemis utilisaient pour stopper ou du moins ralentir le travail. La première, c'était la critique, dans le chapitre 4. Les ennemis commencèrent d'abord en utilisant le ridicule, la moquerie et le mépris pour chercher à empêcher la construction de la muraille. Regardez sa réponse. Autrement dit, est-ce qu'on utilise encore la critique aujourd'hui quand on veut construire quelque chose pour le Seigneur? Bien entendu, le mépris, la même chose, le ridicule, on veut nous ridiculer. Ah, tu crois encore au Père Noël, toi? C'est exactement la même affaire, mais avec d'autres mots qui sont adaptés à notre siècle. Donc, on lit dans Néhémie chapitre 4, versets 4 à 6. « Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple prit à cœur ce travail. » Que de belles leçons. Donc, la critique, dans l'opposition extérieure, la critique. Il y avait aussi le combat. Les bâtisseurs étaient conscients d'une attaque imminente en utilisant la force pour les faire cesser. Nous devons suivre l'exemple de Néhémie qui continua de prier et qui continua de bâtir, même si cela impliquait qu'ils doivent surveiller tout en travaillant. Ça, c'est le fameux « The Sword and the Trowel » de Spurgeon. Il a publié pendant des années, maintenant qu'il était pasteur de l'église de Londres, une revue qui s'appelait « La truelle et l'épée ». Et c'était une référence au livre de Néhémie. Pourquoi? Parce que quand il essayait de construire, il était toujours une épée à la main et l'autre. Autrement dit, la truelle, c'est l'outil avec lequel tu travailles à bâtir des murs. Et l'épée, c'était qu'ils savaient que les Arabes puis tous les jaloux étaient pour venir les attaquer pour qu'ils arrêtent. Alors, il y avait une main sur l'épée puis une main sur la truelle. L'épée et la truelle. Y a-t-il quelque chose qui a changé de nos jours? On construit, puis il faut se défendre avec la parole. La parole qui dit que c'est... Alors, c'est vraiment intéressant. Après ça, on a la tromperie. Chapitre 6, verset 1 à 19. Lorsque l'ennemi ne réussit pas en utilisant la force et le mépris, il utilise l'astuce. Il est toujours plus dangereux en ange de lumière qu'en lion rugissant. La tromperie se manifesta sous quatre formes. La première forme, l'invitation au compromis. Alors on lit dans le chapitre 6, versets 2 et 3. Alors, Sanballat et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis pas descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Voyez-vous, il essayait de le distraire du travail. C'est comme si quelqu'un aujourd'hui chercherait à te distraire quand tu essaies d'évangéliser. Il essaierait de t'emmener ailleurs ou de t'emmener les idées ailleurs pour t'arrêter. Le bluff, chapitre 6, versets 5 à 9. Ils dirent à Néhémie qu'ils avaient logé une plainte au roi contre lui et contre les Juifs en affirmant qu'ils voulaient se rébeller. Alors, quand tu t'envoies au roi dire « Hey, les Juifs, ils sont en train de se rébeller, là! » C'était dans le but de les décourager. Et Néhémie, versets 8 et 9, chapitre 6, a dit « Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Il y aurait une étude merveilleuse à faire sur la manière dont l'ennemi agit et la manière dont on doit répondre. Parce que la manière qu'il répond, c'est toujours la bonne manière. Il compte un mensonge, l'autre il dit, « Oh, le roi, on va l'avertir. » Ce que tu dis, c'est pas vrai. On voit, il y a beaucoup de leçons, il dit, et là il dit, « C'est toi qui l'invente. » Le salissage de la réputation. Une autre tactique, versets 10 à 14. Je me rendis chez Shamaja, fils de Delaja, fils de Mehatabel, et il était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prend la fuite. » Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. Et je reconnus que ce n'est pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballat et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et que je commettrais un péché. Et ils en auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Une autre tactique, l'argent et la destruction de la réputation. Pas nouveau, c'est utilisé encore aujourd'hui. Et l'autre, c'est moyen qui est utilisé, c'est des frères liés aux ennemis par compromis. Verset 17 à 19, chapitre 6. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui. Car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jokana avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoya des lettres pour m'effrayer. Voyez-vous, qu'est-ce que c'était la technique? La technique, c'est toujours de te mêler au peuple. Il y avait des mariages, il y avait des alliances, et c'était un ennemi de Dieu qui se fait ami avec les amis de Dieu dans le but de l'exploiter, puis dans le but de se faire stouler. C'est ça que ça dit, il venait, il rapportait tout, autrement dit un rapporteur. Alors, les tactiques n'ont pas changé, c'est encore la même chose aujourd'hui. Et il y avait de l'opposition, ça c'est de l'opposition extérieure, il y avait de l'opposition aussi à l'intérieur. Et on regarde dans le verset 10, dans Néhémie, du chapitre 4. « Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent des fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Autrement dit, l'opposition intérieure, c'était le découragement devant l'ampleur du travail. Quand tu vois une ville complètement détruite, c'est plein de décombres. Là, tu regardes ça, puis c'est ça, faut construire. Donc, là, ça venait plus de l'extérieur, ça venait de l'intérieur, le peuple qui se décourageait devant l'ampleur de l'œuvre. Tu avais aussi la convoitise, qui était un autre outil interne qui venait de l'intérieur. L'opposition venait du peuple d'Israël lui-même. Le présuraire, autrement dit, le présuraire, Dans le temps de la Bible, 1%, 2% sur un prêt, c'est à considérer du prêt usuraire. Aujourd'hui, on prête à 27, 30, 35%. On n'appelle même pas ça usuraire, c'est légal aujourd'hui. Mais à l'époque, 2%, c'était considéré comme du prêt usuraire. Moi, ça dit dans le chapitre 5, verset 10 et 11, « Moi aussi, mes frères et mes serviteurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Abandonnons ce qu'ils nous doivent. Rendons-leur donc aujourd'hui leurs champs, leurs vignes, leurs oliviers et leurs maisons, et le centième, mais je dois le centième, c'est 1%. Chargez 1%, puis il est en train de le reprocher que vous exploitez le peuple à 1%. Aujourd'hui, à 30%, comme appellerait ça, je ne sais pas. L'argent, du blé, du mou et de l'huile que vous avez exigé d'eux comme intérêt. Autrement dit, il y avait de la convoitise à l'intérieur du peuple. Le peuple, entre eux autres, ils s'exploitaient mutuellement en se prêtant de l'argent à intérêt. Et c'est là que lui il intervient en disant, « Hey, mes amis, arrêtons ça, là. On est en train on travaille contre nous-mêmes. » C'est pas très intelligent. Il y avait aussi les conflits d'intérêts. Néhémie, chapitre 5, verset 14 à 19. « Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi d'Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu des revenus du gouverneur. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain, du vin, outre 40 sicles d'argent. Leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte, par crainte de Dieu. Bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille et nous n'avons pas acheté aucun champ et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. J'avais à ma table 150 hommes, juifs et magistrats, outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. On m'apprêtait chaque jour un bœuf, 6 moutons choisis et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Souviens-toi de moi favorablement, ô mon Dieu, à cause de tout ce que j'ai fait pour ce peuple. » Autrement dit, il avait eu le droit d'avoir un revenu comme gouverneur. Non seulement il ne le prenait pas, mais il prenait de son propre argent pour nourrir une multitude de gens. Alors, si on n'a pas un exemple, je donne Néhémie de grandeur du cœur, puis de... que ça nous prend. Néhémie, maintenant, non seulement, il a complété l'ouvrage en dépit de l'opposition violente et continuelle. Le peuple fit de remarquables progrès. Finalement, l'ouvrage fut complété en 52 jours. Ça dit dans le verset 15 du chapitre 6, « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. » Ensuite, il arrête toute la partie. On va arrêter là pour aujourd'hui. On terminera la semaine prochaine. Toute la partie de Néhémie, le gouverneur. Donc, on a regardé les caractéristiques de ce qu'il a fait, le bâtisseur. On va regarder le gouverneur et on terminera la semaine prochaine.